Et eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairois. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Il faut travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des deux centraux dominants, celle qui s'exerce jour le jour, elle-même, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à l'évolution.
Salut, vous êtes à l'écoute de Canu, c'est l'émission Angle Mort qui commence. Ce soir, on parlera, on vous fera entendre une interview réalisée à propos de Black Bloc. Je laisse Eric vous raconter tout ça.
Oui, bonsoir. Donc, Angle Mort, émission de critique sociale. Ce soir, donc, on va parler effectivement de Black Bloc. Enfin, on va pas vraiment en parler, comme tu disais. C'est en fait une intervention qui a été donnée par Francis Dupuis-Derry, dans un cadre, on va dire, universitaire. Donc, intervention qui a lieu le 27 mai. Je le précise tout de suite parce qu'il y a quelques références qui sont faites dans l'intervention à l'actualité. Donc, le 27 mai, c'est le lendemain de, il y avait eu un petit salon du livre politique à Paris. Il y avait aussi des homophobes, dans la même ville. Donc voilà. Et c'était organisé par le Centre de sociologie urbaine. Et j'en profite bien sûr pour remercier les organisateurs de cette séance et Francis Dupuis-Derry qui a bien voulu qu'on rediffuse donc sa présentation. Donc qui est Francis Dupuis-Derry? Donc il est professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Il est l'auteur de « Les Black Blocs, la liberté et l'égalité se manifestent », édité par Lux Éditeur en 2003 et depuis maintes fois réédité sous des formes revues et augmentées. Et bon, il milite par ailleurs dans des collectifs de sensibilité anarchiste, féministe, etc. D'autres publications aussi à son compte, je vais pas les dire ici, vous pourrez aller vous renseigner sur internet. Simplement dire qu'il a travaillé aussi sur les mouvements masculinistes dont on a déjà eu l'occasion de parler dans cette émission. Donc très vite, l'intérêt de ce livre, il est, à mon sens, il est de dégager notamment l'intelligence tactique des Black Blocs, leur sens de l'innovation tactique. Il amène aussi à déconstruire pas mal d'idées reçues qui peuvent être diffuses jusque parmi les milieux libertaires eux-mêmes. Par exemple, il souligne qu'en certaines circonstances, le Black Bloc en manifestation va décider de ne pas recourir à la force parce que le rapport de force est défavorable ou ça serait préjudiciable à une composante de la manifestation, comme dans le cas de manifestation dans lequel il y aurait des sans-papiers, par exemple. Donc bref, il y a de nombreux aspects du livre qui ne seront pas abordés dans cette intervention et j'invite en fait les auditeurs de Canu à lire le livre parce que l'émission ne saurait s'y substituer. Donc sont absents ou quasi absents ici par exemple les analyses sur la rationalité politique, les motivations politiques des Black Blocs, sur l'attitude des médias, l'attitude des forces policières, sur la question de l'efficacité aussi. On trouve aussi de nombreux exemples dans le livre qui témoignent du fait que les Black Blocs sont après tout les premiers à réfléchir aux questions de violence politique, aux questions de quelles sont les conditions de l'emploi du recours à la force dans une perspective libertaire, anti-autoritaire, pour éviter que le coup de force ne se retourne contre le mouvement, etc. Donc j'en dis pas plus, d'autant que l'intervention est un petit peu longue. Donc tout simplement on va lancer donc le premier extrait de cette intervention où Francis Dupuy-Déry explique qu'est-ce que sont les Black Blocs, raconte ses origines en Allemagne dans le mouvement autonome dans les années 80, la diffusion de cette tactique et de cette esthétique à travers le monde et son actualité. Radio Canu.
Premièrement, qu'est-ce que les Black Blocs ? Donc, comme je disais, sans doute vous le savez déjà, ce sont ces manifestants et manifestantes qui se retrouvent dans les manifestations de type alter-mondialiste au début des années 2000, aujourd'hui en Grèce, par exemple, dans les mouvements contre l'austérité, qui sont caractérisés en fait principalement par une posture esthétique, c'est-à-dire qu'on les reconnaît et ils se reconnaissent entre eux parce qu'ils sont tout de noir vêtus et masqués également, ce qui leur confère un anonymat en fait, même s'ils attirent l'attention en fait comme masse, individuellement ils sont anonymisés par cette forme d'accoutrement, de costume, et ils manifestent en bloc, c'est donc d'où l'idée du bloc noir qui évoque aussi, et ils s'en revendiquent plus ou moins explicitement, des symboles comme le drapeau noir de l'anarchisme, où ils vont être communistes libertaires ou antifascistes, dans les mouvements antifascistes radicaux. Ils sont aussi héritiers dans leur esthétique de la mode punk, post-punk. Et ils viennent même, dans une certaine mesure, de cette scène contre-culturelle. Je vais y revenir. Ce qui est évidemment le sujet de débat le plus important, en tout cas, et c'est pour la raison pour laquelle ils ont principalement attiré l'attention, c'est moins pour leur posture esthétique que pour leurs actions. Ils sont identifiés à la violence. Dans certains cas, on parlera même d'ultra-violence, en tout cas dans les médias. Et ça va être évidemment une partie de ma réflexion évidemment va porter sur cette question. Concrètement, si on les identifie comme un type d'action spécifique d'entrée en manifestation et d'agir collectif en manifestation, les Black Blocs ou le Black Bloc est une tactique, donc ce n'est pas un groupe ni un mouvement permanent. Il n'y a pas en principe de président, de conseil exécutif, ni même de compte de banque en Suisse, quoiqu'ils attaquent souvent les banques en Suisse. Le Black Bloc, donc, est vraiment une tactique, un mode d'action. On dit des fois qu'avant et après la manifestation, il n'y a plus de Black Bloc. Le Black Bloc n'existe que dans la manifestation. Et à ce sujet, il y a même des images qui symbolisent cette réalité. Par exemple, pendant le sommet du G20 à Toronto, des journalistes ont capté, en fait, le Black Bloc en fin d'action. Qui s'était regroupé en fait hors de la foule sur une pelouse, et donc là on a pris des photos du Black Bloc en cercle, et la photo d'après en fait il ne reste que des vêtements sur la pelouse et c'est comme si les êtres humains s'étaient évaporés en fait et le Black Bloc s'est dissous. concrètement, donc, cette mode d'entrée en action collective dans des manifestations nous vient de l'Allemagne. Donc, c'est une action très typée. Donc, puisqu'elle est très typée, on peut savoir d'où elle vient. Elle vient de l'Allemagne de 1980 ou à peu près 1979-80, Allemagne de l'Ouest, parce qu'on est pendant la guerre froide, et de ce qu'on appelle en Allemagne le mouvement autonomène. Yves m'excusera pour mon accent allemand, je n'ai aucune prétention à connaître l'allemand. Ce que je connais du mouvement autonomène et des Black Blocs en Allemagne vient entre autres des écrits de Georges Cassifikas, qui a écrit, je pense que c'était sa thèse en fait, un livre complètement consacré au mouvement autonomène dans les années 80-90. L'autonomie, donc, qu'évoque le nom, est une autonomie face au système officiel, donc à l'État, au capitalisme, au patriarcat, et donc à leurs institutions qui y sont liées, aux partis, aux syndicats, par exemple. Et donc, les autonomes ne sont liés à aucune institution en principe, mais aussi une autonomie face aux idéologies. Donc, les autonomènes tentent de refuser une association précise à des idéologies comme le marxisme, l'anarchisme, l'écologisme ou le féminisme, même si on pourrait dire un peu contre leur volonté que dans les faits, ils sont en fait l'incarnation de principes anarcho-marxistes ou en tout cas une sorte de marxisme conseilliste et du féminisme radical. Et de l'écologisme radical, ils ont été beaucoup liés à des mouvements contre le nucléaire, à la fois civil et militaire dans les années 80. Et une autonomie organisationnelle, donc, ils étaient identifiés dans les années 80 à un énorme réseau de squats en Allemagne de l'Ouest, mais aussi en Hollande, au Danemark et ailleurs, où se pratiquait l'autogestion, l'autonomie politique, et dans certains cas, la non-mixité en termes de rapports sociaux de sexe. Et donc, c'est à peu près dans ces vers 1980, donc, que le terme lui-même apparaît en allemand. Et là, encore, je m'excuse, c'est un peu plus compliqué qu'autonomène. Schwarzer Block, Black Block Noir, pardon. Il y a des débats, peut-être pas super intéressants pour vous, à savoir qui a inventé ou utilisé le terme en premier. Certains disent que c'est un appel à manifester dans la manifestation anticapitaliste du 1er mai 1980 à Francfort. D'autres vont dire que c'est la police, en fait, de Berlin-Ouest qui a proposé le terme. Pour d'autres, ce sont les médias. En tout cas, en 1981, il y a eu un procès contre une organisation criminelle qui s'appelait le Black Bloc, en tout cas selon le juge. Ce procès, cette cause a été abandonnée et la même année, vous aviez une brochure fanzine intitulée Black Bloc, où on expliquait en allemand, il n'y a pas de programme, pas de statut, pas de membre du Black Bloc. Il y a, cela dit, des idées politiques, des utopies qui déterminent nos vies et notre résistance. Cette résistance a plusieurs noms et un de ceux-là, c'est le Black Bloc. Même si on dit que ça vient de l'Allemagne de l'Ouest et du mouvement autonome, paradoxalement, aujourd'hui encore, les Allemands du mouvement autonome souvent n'utilisent pas eux-mêmes et elles-mêmes le terme. Par exemple, une des affiches appelant à la manifestation du capitalisme du 1er mai cette année à Berlin, qui était rédigée en anglais, qui était collée sur les murs de Berlin, appelait les gens à rejoindre le bloc autonome ou le bloc anarchiste, donc. Il n'y avait pas le terme Black Bloc comme tel. Même si ce terme Black Bloc va être repris très rapidement dans les années 2000 un peu partout et même dans des langues autres que l'anglais. Donc nous, par exemple, en français, on va dire Black Bloc. Les médias vont dire Black Bloc. En italien, j'ai vu des premières pages où il y avait les termes en italien, puis tout à coup, il y a le mot Black Bloc qui apparaît lors des manifestations de type Occupy en novembre 2011 ou dans le cadre du mouvement Notav, dont vous avez peut-être entendu parler aussi. En espagnol, en décembre de l'année dernière, il y a eu une manifestation assez brutale contre l'intronisation du nouveau président au Mexique, à Mexico, et les médias ont parlé d'un Black Bloc, donc ils ont repris le terme anglais. Et en janvier, au Caire, un groupe qui lui-même s'est identifié Black Bloc sur sa page Facebook, qui a été identifié comme tel dans les journaux, dont dans des médias arabes comme Al Jazeera, où là vous avez le texte en arabe et vous avez Black Bloc au milieu, ce qui permet pour moi d'en comprendre à peu près 1%. La question étant peut-être comment donc tout ça, ça s'est diffusé à partir de l'Allemagne de l'Ouest, des réseaux squat. Vous avez les sociologues Charles Tilly, Doug McAdam et Dieter Rutsch, par exemple, qui s'intéressent à cette question des formes d'action collective à certaines époques, des répertoires d'action collective. Et on peut dire que le Black Bloc, d'une certaine manière, fait partie d'un répertoire. C'est une forme d'action collective. Et ils discutent aussi des moyens de diffusion. Et les diffusions sont souvent des diffusions dans des réseaux militants. Évidemment, ça va de soi. Quand les gens ont des liens organiques, c'est encore plus facile de pratiquer la diffusion des modes d'action. Et là, tout le monde s'entend pour dire que le Black Bloc, donc, part de l'Allemagne de l'Ouest dans les années 80 et va être diffusé, en fait, en Europe dans les réseaux d'ultra-gauche ou de l'extrême-gauche, mais à la limite moins dans les réseaux explicitement que politiques que dans le milieu punk. Et donc, c'est vraiment la scène culturelle punk qui est par ailleurs très politisée, évidemment, qui est très politisée, entre autres, sur la question de l'antifascisme, qui va diffuser ce mode d'action, à la fois parce que les musiciens sont également des militants et qui eux-mêmes en fait pratiquent le Black Bloc à l'occasion dans des manifestations, et parce qu'on est dans le réseau des squats pour organiser les concerts, et que c'est là qu'on s'y retrouve, et c'est là qu'on parle en fait de nos batailles de rue avec les néo-nazis par exemple, etc., etc. Et là on crée cet engouement pour le mode d'action de type Black Bloc, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, par ailleurs, reprend certains éléments de la mode vestimentaire punk. C'est aussi comme ça que, si j'ai bien compris, le phénomène s'exporte, en fait, ou traverse l'Atlantique du Nord et se retrouve aux États-Unis et en Amérique du Nord au début des années 90. On a un premier Black Bloc 90-91 dans les manifestations contre la première guerre contre l'Irak. Et puis à Montréal, je parle de Montréal parce que je viens de Montréal, en fait, ça n'a pas d'autre intérêt. À Montréal, moi, le premier Black Bloc que j'ai vu en manifestation, c'est en 94. C'était une manifestation, ça va vous intéresser, contre la venue à Montréal de deux élus du Front National, un parti politique dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et donc, il y avait une manifestation antiraciste, antifasciste à Montréal. Et l'événement était assez important. En fait, apparemment, il y avait eu des rumeurs que Jean-Marie Le Pen lui-même était à Montréal, ce qui n'était pas le cas. Mais en tout cas, l'événement était considéré assez important pour que des membres d'un réseau antiraciste radical d'Amérique du Nord anglophone, donc le Anti-Racist Action, l'action antiraciste, viennent de Toronto. Et quand ils sont descendus de leur autobus, en fait, ils étaient en formation Black Bloc avec certains membres qui avaient des bandeaux qui les identifient comme infirmiers volontaires, ce qu'on a souvent dans les manifestations radicales, d'autres qui portaient des systèmes de son pour faire jouer de la musique, etc. Et effectivement, ils ont mené des actions, ils étaient équipés, par exemple, de sortes de fusils qui lançaient des balles de peinture. Les activistes eux-mêmes ont évidemment au fil du temps et selon leur position, leur expérience, des jugements diversifiés par rapport à cette expérience militante. Vous allez avoir évidemment des moments où ils sont plus visibles et des moments où ils semblent disparaître. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, et vous le savez de toute façon sans doute, autour de 2000-2001-2002, avec le mouvement altermondialiste et des grands événements comme Seattle en 1999, au Québec, le Sommet des Amériques en avril 2001, en Europe, Gothenburg et Gênes pendant l'été 2001, c'est un peu, disons, le moment d'apparition sur les écrans radars hors de l'Allemagne, en fait, du phénomène Black Bloc, et tout le monde en fait s'en inspire, en fait, et là les médias de masse eux-mêmes participent à l'effet de diffusion, c'est-à-dire ça, l'effet de diffusion il est exemplifié par les médias de masse qui font leur première page et leur grand titre des actions Black Bloc dans les grands sommets. Par ailleurs, les années passent, et donc, anecdote, mais qui est quand même significative, je pense, hier, il y avait un petit salon du livre politique à Paris, où vous aviez la possibilité de vous retrouver entre gens qui n'étaient pas homophobes, et un militant de la CNT, donc syndicat anarcho-syndicalisme, qui lui me disait avoir participé à des Black Blocs justement en 2000 et 2001, avait un souvenir plutôt critique de cette époque en disant que dans le fond ce n'était resté qu'un épiphénomène marginal et presque insignifiant. Et dans une perspective un peu militariste, il me disait les Black Blocs n'ont jamais réussi à être efficaces. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais réussi à réellement combattre la police et tenir la rue devant la police, même à Gênes, par exemple. Et effectivement, en 2003-2005, vous allez avoir des commentaires dans des fanzines ou des sites anarchistes qui vont annoncer que le Black Bloc est mort, que c'était une tactique qui a été efficace, disons, par son effet de surprise à Seattle, entre autres, et dans les mois qui ont suivi, mais que maintenant, la police et les autorités connaissent trop bien les Black Blocs, et soit qu'ils les instrumentalisent, soit qu'ils les infiltrent, soit simplement qu'ils les neutralisent dès qu'ils se mettent en place. Et donc, le Black Bloc est mort, c'était à la fois un constat et une sorte d'affirmation, c'est-à-dire il est le temps de passer à autre chose. Ce qu'à Montréal, on a vu en 2009-2010, quand en fait le réseau anticapitaliste a commencé à se mobiliser contre le sommet du G20 à Toronto. Donc, sommet du G20 à Toronto qui a eu lieu en juin 2010. Et à cette occasion, donc, le mouvement anticapitaliste montréalais, qui était en fait, je dirais, c'est un peu bizarre, mais vous comprendrez sans doute pourquoi, de parler en termes de génération, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de jeunes qui n'étaient plus de la génération de 2000-2001, mais qui avaient en fait 8-9 ans à l'époque, donc maintenant ils avaient 20 ans, et qui disaient, bon, en 2000-2001, pour le sommet des Amériques, par exemple, c'était bien drôle d'avoir des Black Blocs, mais en 2010, pour Toronto, on n'ira pas avec une tactique Black Bloc parce que ça fait partie du passé. Le paradoxe, c'est que à Toronto, en fait, finalement, il y a eu un Black Bloc et que on pourrait avoir des débats à ce sujet, mais que le Black Bloc, d'une certaine manière, a réussi son pari, c'est-à-dire que malgré à peu près 800 millions de dollars de dépenses en termes de sécurité, ce qui équivaut à 600 millions d'euros à peu près. Et une très grande répression, une infiltration sur plusieurs mois en avance et des arrestations préventives de chefs anarchistes. Le matin de la grande manifestation, le Black Bloc a quand même réussi à déjouer la police et faire ce qu'il voulait faire sans doute, c'est-à-dire saccager le centre-ville de Toronto. Et donc, malgré cette idée, donc dans les années 2003, 2004, 2005, que le Black Bloc est mort et n'est plus utile, malgré des commentaires critiques de vétérans Black Bloc aujourd'hui, en fait, le Black Bloc réapparaît. On pourrait même dire que ces dernières années, c'est un peu une autre vague Black Bloc. Donc, Toronto en 2010, la Grèce, évidemment, 2008-2010, le mouvement anti-cote, donc anti-austérité en Grande-Bretagne en 2011, le mouvement Notav, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est dans le Val de Suse, Occupy, c'est octobre ou novembre 2011, je me rappelle plus, il y a une journée, le 15, je crois, du mois, où le mouvement Occupy avait appelé à des manifestations, et à Oakland, entre autres, aux États-Unis, surtout à Rome, il y a eu de gros Black Blocs qui ont attiré l'attention. Pendant la grève étudiante au Québec, nous avons eu des moments de type Black Bloc. J'ai parlé de Mexico, l'Égypte, etc. Et donc, c'est une forme d'action qui est encore bien vivante, 30 ans après son apparition, et qui a toujours un peu le même modalité d'action.
Une petite dédicace à tous nos drugs dans la salle et à Ludwig van Beethoven 88.
À l'écoute de Canus, c'est le 102.2, la plus rebelle des radios, c'est l'émission Angle Mort. On cause aujourd'hui de Black Bloc à partir d'un enregistrement d'une intervention de Francis depuis Derry. Et puis là, vous venez d'entendre la chanson Petite Agitée des Berruriers Noirs sur le live Viva Bertaga.
Et on enchaîne du coup tout de suite avec la suite de l'intervention où Francis Dupuis-Derry intervient, enfin parle d'abord de la question de la violence rapidement sur de quelle violence on a affaire ici, avant d'aborder la question des rapports sociaux de sexe, des rapports hommes-femmes au sein du Black Bloc, au sein des Black Blocs.
D'accord, et bien allez, on continue.
Évidemment, comme j'avais dit, c'est la question de la violence qui fait débat. D'un point de vue, disons, empirique, la violence des Black Blocs, on s'entendra pour dire qu'elle est, avec Jeffrey Duris, c'est une violence en partie symbolique, ou si vous n'avez pas le terme symbolique, parce que c'est quand même un bruit de destruction, elle est... disons, performative dans la critique, c'est-à-dire qu'on va fracasser des vitrines de banques, par exemple. Éventuellement, on va en incendier. Il y a des fois des utilisations de cocktails Molotov dans certains pays, mais très peu en Amérique du Nord, par exemple. Et évidemment, on peut se confronter avec la police de façon plus ou moins efficace. Mais à part dans une occasion, les Black Blocs n'ont pas vraiment... provoquer des blessures graves et n'ont pas les actions de type Black Bloc n'ont pas entraîné le décès de personne, sauf dans un cas, en fait, en mai 2010, où une action de type Black Bloc dans une grande manifestation à Athènes a entraîné le décès de 3 employés de banque par intoxication à la fumée. Il y a eu un cocktail Molotov lancé dans une succursale. Et là, malheureusement, moi, je suis pas en mesure là de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. C'est-à-dire, est-ce qu'ils savaient qu'il y avait des employés ou non? Parce qu'on disait... Bref, j'ai mes connaissances, mais j'ai pas de contact en Grèce. J'ai pas fait de terrain en Grèce. Et je ne lis pas le grec. Et donc, j'essaye un peu de comprendre. Il y a des débats, évidemment, sur à savoir est-ce que c'était les policiers filtrer des vrais Black Blocs, pas des vrais Black Blocs, aller des bandes Black Blocs, et on pourrait y revenir plus tard. Mais donc, ça, c'est un événement où on parle vraiment d'une violence meurtrière, mais c'est la seule occasion. Évidemment, Malgré le débat autour des Black Blocs, et on pourra revenir peut-être, si vous le voulez, aussi à une discussion sur la pacifisation de nos sociétés ou la perception que nos sociétés sont de plus en plus pacifiées depuis la Deuxième Guerre mondiale en Occident. C'est une impression, en tout cas, qu'on en a. Et c'est peut-être pour ça que les Black Blocs font si sensation. Évidemment, c'est pas un phénomène si original qu'on peut le croire à premier abord. La plupart des mouvements sociaux, et vous le savez sans doute, ont connu des types d'actions de cette sorte, c'est-à-dire sabotage, action directe, perturbation, etc. Même ceux que notre mémoire historique tend à nous faire imaginer aujourd'hui comme des mouvements purement non violents. Je pense entre autres au mouvement des suffragettes. Si vous lisez un peu l'histoire des suffragettes en Angleterre, en Grande-Bretagne au début du 20e siècle, vous allez réaliser que les Black Blocs n'ont absolument rien inventé. Il y a eu des journées où des centaines de femmes en fait sont descendus dans le centre-ville de Londres et ont vandalisé des dizaines de vitrines de banques, de ministères, de bâtiments de la couronne ou de couturiers qui fournissaient les vêtements pour la couronne britannique. Si bien qu'ils ont brûlé des banques, des églises, des bureaux de poste, des trains. En 1913, en fait, l'historiographie au niveau des suffragettes en Angleterre rapporte 232 incendies ou attaques à la bombe perpétrées en Angleterre. En 1914, 105, mais l'année a été plus courte. L'année s'est arrêtée au mois d'août, alors que les hommes qui avaient le droit de vote sont allés se massacrer sur les champs de bataille. Et le mouvement suffragette a marqué une pause. Et d'autres mouvements, évidemment, utilisent des types d'actions direct de rue. Si vous avez circulé dans les rues autour de l'Assemblée nationale hier à Paris, vous avez sans doute vu des confrontations entre des manifestants et des manifestantes, peut-être, je sais pas, et les forces de l'ordre. Composition du Black Bloc a souvent soulevé des débats, mais cette fois-ci plutôt à l'intérieur des réseaux anarchistes ou activistes au sujet des rapports sociaux de sexe et l'identité de genre. A priori, c'est même revendiqué explicitement le fait de manifester de manière anonyme de type Black Bloc permet par rapport aux rapports sociaux de genre de cacher le genre, c'est-à-dire qu'on est anonyme. Dans les faits, ça marche plus ou moins parce qu'en fait, la plupart des journalistes et des commentateurs assument que puisqu'on n'est pas capable d'identifier le genre, c'est tous des hommes. Donc, en fait, c'est un peu raté, en tout cas pour les femmes. Évidemment, on peut facilement voir pourquoi on pense que c'est tous des hommes. Et donc, là, du côté, disons, des Black Blocs ou de leurs sympathisants et sympathisantes, ça a donné lieu à plusieurs types de positions. Il y a des positions féministes qui vont critiquer, en fait, dans le réseau, les hommes pour avoir une position machiste et effectivement utiliser la tactique Black Bloc comme un garant de pureté idéologique et d'excellence militante et de se prétendre supérieur aux autres parce qu'en fait, c'est mieux de lancer des briques à des policiers ou contre des banques que de faire d'autres types d'actions moins spectaculaires. Et donc là, c'est le machisme, en fait, du Black Bloc qui est remis en cause. Et donc là, dans ce cas-là, c'est effectivement une critique de l'hégémonie masculine dans le Black Bloc. D'autres féministes, des Italiennes, entre autres des Américaines, des Italiennes vont lancer le slogan Black Bloc, pas seulement pour vos petits copains, et donc qui encourage finalement les femmes à rentrer dans le Black Bloc. Et des féministes américaines vont aussi dire que c'est important parce que ça permet de montrer en fait que les rôles de sexe sont socialement construits et qu'en fait, comme le dit un collectif qui s'appelle The Black Woman Movement, qui a signé un texte qui s'appelle Women in the Black Bloc, il n'en tient qu'à nous de rappeler ce que nous sommes capables de faire à ceux qui doutent de nos capacités et de notre force. Nous pouvons être tendres et les hommes aussi. Nous pouvons fracasser des vitrines et les hommes aussi. Nous pouvons pleurer et les hommes aussi. Nous pouvons lancer des briques et les hommes aussi. Dans les faits, il semble que la composition des Black Blocs par rapport au sexe est très diversifiée. Il y a des Black Blocs qui sont très fortement majoritairement masculins. Il y a d'autres Black Blocs qui vont être à 50% féminins. Il y a même des groupes d'affinité Black Bloc qui sont uniquement féminins. Ça va dépendre du contexte de l'époque ou du réseau militant aussi. Des observateurs constatent, par exemple, mais je vous mentionne simplement à titre informatif, que en Allemagne, il semble qu'il y a une plus forte présence de femmes dans les Black Blocs qu'en Italie, par exemple. Au Canada, pour ce que moi j'ai pu observer, dans les années 2000, il y avait très peu de femmes dans les Black Blocs. Et dans les années 10 ans plus tard, donc au sommet, contre le sommet du G20 à Toronto, dont j'ai parlé tout à l'heure en 2010, ou pendant la grève étudiante, il semblait y avoir cette fois-là une forte proportion de femmes dans les Black Blocs. Et dans le cas de la grève étudiante, il semblerait même que les actions les plus spectaculaires menées par de type Black Bloc ont été menées principalement par des femmes. Ce qui n'empêche pas, évidemment, que dans ces réseaux, même quand il y a une forte proportion de femmes dans le milieu, qui puissent avoir des graves problèmes de comportement sexiste et même de harcèlement sexuel et d'agression, comme ça a été rapporté dans le cas de la grève étudiante au Québec.
Camps armés de battes de baseball et de barres de fer ont saccagé la nuit dernière des voitures en stationnement et des vitrines de magasins sans que la police puisse les intercepter.
À l'écoute de Canu, c'est toujours l'émission Angle Mort. Il est 21h38 exactement. C'est important de connaître l'heure.
Il faut le savoir.
Voilà. Et vous venez d'écouter la chanson
Fatal Shopping.
Ah voilà, de Fœtus Party. Et on continue notre cheminement à travers l'intervention de Francis Dupuy-Déry qui parle de Black Bloc.
Et là, il va aborder en fait les discours de disqualification des Black Blocs où on va retrouver à la fois les élites politiques officielles et les responsables et porte-parole sociodémocrates qui cherchent à gagner une respectabilité auprès des premiers. Et il évoque les effets probables ou possibles en termes de ces discours de disqualification, en termes de légitimation de la répression policière. Et dans un deuxième morceau, il développe une réflexion sur la question de la délibération au sein des Black Blocs. Voilà. J'en dis pas plus.
Au début des années 2000, le Black Bloc était aussi un sujet de critique des porte-paroles ou des responsables des grandes organisations du mouvement altermondialiste. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se joue dans cette critique, dans ce tir ami, on pourrait dire, de la critique des Black Blocs. Et donc, je pense que ça fonctionne en quelques étapes. La première étape, elle est indépendamment des jugements moraux qu'on peut avoir au sujet de la violence en politique ou même de son efficacité tactique. Ce qui est clair dans la plupart des grands des événements, des grands événements où entrent en action des Black Blocs, donc avant les grands sommets, par exemple, à peu près partout, les élites politiques officielles, donc les élus, en fait, font un appel explicite aux responsables et aux porte-parole des mouvements, disons, sociodémocrates pour exclure les Black Blocs, pour condamner à l'avance les Black Blocs et pour s'assurer, évidemment, qu'il n'y aura pas de débordement, qu'il n'y aura pas de violence. Et évidemment, tout ça, c'est lié à une histoire aussi en Europe ou en Amérique du Nord de pacification des rapports entre les mouvements sociaux et les forces de l'ordre avec les services d'ordre mis en place par les syndicats, etc., etc. Mais donc, si je reviens aux étapes, donc les élites politiques demandent explicitement aux responsables des organisations, des associations, des mouvements sociodémocrates ou disons de gauche de se distancier des actions de ce Black Bloc. Elles vont le faire régulièrement dans des tribunes et ce qui va créer évidemment un effet de distinction, c'est-à-dire que en se distinguant du Black Bloc, le pari, j'imagine, c'est d'ailleurs ce que plusieurs citations laissent penser, c'est que on espère en fait avoir une image respectable et se présenter comme des interlocuteurs responsables et respectables. Et plus légitimes. Quelques citations pour vous démontrer la logique. Dans les propos même, par exemple, du coordinateur du Forum social en 2003, donc à l'époque du G8 à Évian, on dira « Nous condamnons fermement ce type d'action, là on parle des Black Blocs violentes, totalement étrangères au mouvement altermondialiste. » Donc on s'en dissocie, mais en plus, on les déclare comme étrangers au mouvement. On revient avec l'idée d'un virus qui vient intoxiquer le mouvement, mais qui ne fait pas réellement partie du mouvement. Christophe Aguiton, que vous connaissez peut-être, qui était responsable des relations internationales d'Attaque, qui a aussi écrit des livres sur le mouvement altermondialiste, affirmait encore en 2003 que le Forum social... je pense que c'est en 2001, ça. Il le dit, a été légitimé en Italie et bien au-delà par sa capacité de se démarquer des violences commises par certains groupes de manifestants. Donc, eux-mêmes disent explicitement et publiquement que, en dénonçant les manifestants, on se trouve légitimé par sa capacité de se démarquer des violences. Suzanne George, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était à Attaque, elle aussi, dit au sujet des Black Blocs qu'il s'agit d'une poignée d'individus qui, effectivement, ne proposent rien du tout. Elle précise, et pour les anthropologues et les psychologues autour de la table, ça va être intéressant, elle précise que les Black Blocs, en fait, participent, en fait, je la cite, d'une sous-culture minoritaire, les cuirs noirs heavy metal spike air crasseux de Zurich, dont l'unique but dans la vie est apparemment de casser. Seul un psychologue ou anthropologue qualifié pourrait dire si le politique leur inspire le moindre intérêt. Donc, mon interprétation de cette citation est qu'elle cherche à délégitimer les Black Blocs en les relayant hors de la sphère de la rationalité politique. Et elle dira également, il faut imposer totalement la non-violence dans nos rangs pour obtenir un militantisme discipliné. Donc là, vous voyez bien le tango qui se joue entre deux pôles du mouvement et la question qui est, disons, cette fois-ci une question plus politique qu'on peut se demander, c'est est-ce que... Et là, évidemment, je sais que tout ça, ça ne se limite pas à cette question, qu'il y a d'autres enjeux dans l'utilisation le recours à la force en manifestation, mais est-ce que donc ce jeu de dénigrement et d'exclusion de la part des grandes organisations qui répond à des attentes explicites de l'élite politique élue a des résultats positifs pour les grandes organisations elles-mêmes? C'est une question qu'on peut se poser. Moi, mon observation, c'est que les résultats, en tout cas, sont faibles. En fait, je ne sais pas si c'est lié à ça ou non, mais jusqu'à maintenant, il me semble que les organisations ont eu peu de gains, peu d'accès au processus de décision dans les grands sommets, entre autres, mais que les résultats négatifs semblent visibles parce que, c'est mon hypothèse, je n'ai pas le temps de développer, mais je pourrais développer plus tard, ça vient évidemment par ailleurs légitimer la répression policière qui, elle, ne se limite pas à cibler ces groupes-là, mais qui utilise ces groupes-là pour justifier son ampleur. Et finalement, quelques mots seulement sur la dernière idée, c'est-à-dire le Black Bloc comme sujet politique collectif. Et donc, évidemment, ça peut paraître des fois curieux d'associer un micro-phénomène comme le Black Bloc, et micro dans sa dimension, dans sa taille, mais aussi dans le temps, c'est-à-dire que c'est un phénomène éphémère, un point éphémère, si on veut, on peut dire. L'identifier un sujet politique collectif. Je m'intéresse, entre autres, en philosophie politique, à la question de la délibération, et je vais donc vous dire quelques mots à ce sujet en lien avec les Black Blocs. Et donc, j'ai évidemment pas le temps de me lancer dans une grande réflexion et un grand débat et une grande synthèse sur les enjeux de la délibération politique, mais pour le faire très rapidement, les théories sur la délibération politique, inspirées entre autres de Habermas et d'autres, présentent le principe de délibération non pas comme un fait social nécessairement, mais très certainement comme un idéal régulateur. Et donc, on identifie la délibération qui est définie comme en fait une délibération qui sera juste dans la mesure où elle a lieu entre personnes ou groupes libres, égaux, et qui cherchent à réfléchir, identifier, poursuivre le bien commun, et qui seront prêts à se plier à la force du meilleur argument plutôt qu'à l'argument de la force. Donc, c'est un idéal régulateur. On regardera un processus de décision dans la mesure où il se rapproche d'un processus délibératif. On dira que la décision prise est plus légitime, et moins il y a de délibération juste et équitable, moins la décision sera considérée comme légitime. Dans la tradition, évidemment, il y a quelques exceptions, mais dans cette tradition de la théorie délibérative, les mouvements sociaux ont une place, des fois. La contestation, la désobéissance, les mouvements sociaux ont une place, des fois. Mais on se préoccupe peu de savoir comment on fonctionne à l'interne des mouvements sociaux, et on ne va intégrer dans la théorie, généralement, à part, comme je dis, quelques exceptions, que les mouvements sociaux pacifique. C'est très important de ne pas avoir recours à la force. Et là, donc, dans ce cadre-là, évidemment, les actions de type Black Bloc seraient discréditées. Le problème, et pour faire écho à ce que Suzanne Georges disait, on pourrait se demander, par ailleurs, en quoi, par exemple, une non-violence totale imposée dans les rangs par un militantisme discipliné correspond à l'idéal délibératif. Et moi, ma proposition dans l'évaluation de la légitimité des mouvements sociaux et de leurs actions en référence à l'éthique délibérative, c'est de regarder comment ça fonctionne dans les mouvements et comment ils prennent leurs décisions de manière délibérative ou non. Et là, évidemment, de manière délibérative, ces mouvements peuvent décider de faire toutes sortes de choses, ils peuvent décider d'être tout à fait non-violents, peuvent décider de faire des vigiles à la chandelle, de faire des pétitions, de faire une grève de la faim, de faire des die-in. Éventuellement, ils peuvent aussi décider d'attaquer des McDonald's et de lancer des projectiles à la police, c'est possible. Et ma question, c'est qui décide dans le mouvement? Est-ce que les gens décident par un processus délibératif ou non? Et là, ce qui est intéressant avec les Black Blocs, c'est qu'il est, dans la mesure de leurs moyens et de la turbulence du moment, il y a des tentatives documentées de délibérer un peu en amont et dans l'action Black Bloc, même si ça paraît un peu surprenant, dans la mesure où on a tendance à distinguer le démos, c'est-à-dire le peuple qui délibère, et la plèbe, le peuple qui est dans la rue. Et donc, je vais finir avec deux citations pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc, une militante activiste qui était à Annemasse en 2003 et manifestait contre le G8 dans les actions de type Black Bloc a dit, je la cite, « J'ai trouvé extraordinaire de constater que nous pouvions organiser des assemblées de délégués en plein cœur de l'action de blocage. » Il y avait des barricades, des feux avaient été allumés, les policiers tiraient une grande quantité de gaz lacrymogène. Néanmoins, une assemblée a été convoquée. Quelqu'un criant « Réunion dans 10 minutes près de ce poteau de signalisation ». La réunion eut lieu à peine à quelques centaines de mètres de la police et cela nous a permis de déterminer le cours de nos actions. Chacun a pu informer les autres de ses besoins. Elle rapporte « Nous avons besoin de renforts devant les policiers. » D'autres disaient « Nous avons besoin d'aide pour ériger des barricades. » D'autres disaient « Nous devrions envoyer des gens en reconnaissance, etc. » Nous avons donc été capables d'agir de façon dynamique durant l'action sans que ce soit une seule personne qui crie « Nous devons faire ceci ou cela. » Et elle ajoute « Les policiers pensent que vous êtes une foule et que vous allez agir comme une foule. » Le modèle des groupes d'affinité permet de rompre cette dynamique. Vous n'agissez plus comme une foule, vous agissez maintenant comme un penseur rationnel. Les groupes d'affinité nous aident à rendre réel notre propre pouvoir. Les groupes sont encore surpris et déroutés par les groupes d'affinité. Et là, elle cite les policiers. Nous avons des canons en haut, nous avons des gaz lacrymogènes, se disent-ils, mais voilà ces gens qui devraient s'enfuir en courant, qui tiennent une assemblée devant nous pour décider ce qu'ils vont faire. Évidemment, je ne veux pas vous dresser un portrait idyllique de la délibération de type Black Bloc. Il y a des problèmes évidents, des problèmes techniques. Il s'agit aussi de voir comment les gens sont organisés à l'intérieur des Black Blocs, s'ils se connaissent un peu, s'il y a des groupes d'affinités qui permettent de faciliter les regroupements. Et puis, des Black Blocs femmes que j'ai interviewées après la grève étudiante à Québec l'année dernière disaient qu'il y avait aussi des différences, et là, c'est peut-être une trop grande généralisation, mais en tout cas, j'ai eu deux témoignages de ce type qui disaient dans les Black Blocs non-mix femmes, la délibération va beaucoup mieux que dans les Black Blocs où il y a des hommes. Et donc, il y a des distinctions entre capacité délibérative et mode d'organisation. Mais tout ça nous rappelle tout de même l'importance, je dirais cette fois-ci, à la fois sociologique et politique de la délibération dans les mouvements sociaux, quelque chose qui a été constaté, par exemple, par la sociologue Francesca Poletta dans son livre « Freedom is an endless meeting », « La liberté est une réunion sans fin », où elle dit, et là, ce n'est pas simplement un point de vue politique, mais c'est un point de vue sociologique d'étude des mouvements sociaux, elle dit « La délibération dans les mouvements sociaux a des avantages. Évidemment, c'est une sorte de syllogisme ou de tautologie, c'est la délibération qui permet l'auto-organisation, mais elle favorise aussi l'innovation, la cohésion du groupe, puisqu'on participe à la décision, on se sent plus lié au groupe. Et d'un point de vue politique, évidemment, c'est par la délibération interne qu'un groupe militant, quel que soit son mode d'action, incarne aussi dans l'action la démocratie directe. Voilà, j'arrête avec ça.
Jamais entendu ça d'une façon pire, d'un canard de balle, ça n'est plus jamais vu ça, les belles fêtes ressemblent.
On vient de s'écouter Cochise, la chanson...
Un morceau.
Oui, un morceau de Cochise, oui. La chanson qui jettera la dernière pierre. Et on continue avec l'entretien, enfin l'intervention de Francis Dupuy-Déry sur les Black Blocs. On va vite, car les copains de la causerie vont commencer tout bientôt, puis nous on est un peu à la bourre.
Ouais, et juste pour dire du coup qu'on s'excuse, on n'a pas pour habitude de couper les chansons au milieu, mais là du coup on veut aller vite. Et donc, dernier morceau de l'entretien de Francis Dupuy-Déry sur les Black Blocs, où là il aborde, on va dire, les contradictions entre ce que disent les Black Blocs, ou ici plutôt les anarchistes, et ce qu'ils font entre les conceptions et les pratiques, et du coup la question du pouvoir au sein des mouvements libertaires. Et il termine en rappelant que le Black Bloc est une tactique, c'est-à-dire que les actions des participants ne se limitent pas au Black Bloc. La question de la transformation du monde ne se limite pas à cette tactique qu'est le Black Bloc. Voilà, donc toujours sur Radio Canu et Angle Mort.
Les contradictions, elles sont... plus j'ai avancé dans mes réflexions, plus j'ai voulu en témoigner, disons, de les souligner, les contradictions, entre autres en ce qui a trait aux rapports sociaux de sexe, mais d'autres types de contradictions aussi. Et puis, un mémoire de maîtrise au Québec qui portait sur l'Union des communistes libertaires, qui est donc une organisation communiste libertaire, comme son nom l'indique, sur les rapports sociaux de sexe dans cette organisation, qui a été déposé cet hiver et qui a été signé malheureusement par une étudiante dont je ne me rappelle plus le nom, mais que j'ai lu, dont j'ai lu le mémoire. Elle dit, souvent on parle de contradictions dans les mouvements anarchistes, ou à la limite dans les mouvements féministes aussi, disons dans les mouvements sociaux qui ont une prétention forte à l'égalité, par exemple. On revient tout le temps avec des exemples de « Ah oui, mais ils prétendent être égalitaires, mais on voit bien qu'il y a quand même quelqu'un qui a plus d'influence et donc c'est raté. » Et elle le dit, je pense, en tout cas, bref, si vous voulez la référence exacte, je pourrais vous la retrouver. Elle dit, en fait, il ne faut pas parler en termes de contradiction, mais peut-être c'est ce que je fais d'ailleurs, mais elle dit, en fait, les militants et militantes, ils savent qu'il y a ces problèmes, en fait, à la limite, même peuvent en être obsédés, et le vivent comme des tensions. Et elle fait une différence entre contradiction et tension. Contradiction, il y a un côté un peu de fatalité, c'est-à-dire on est toujours en contradiction avec nos principes, et on est un peu bête de penser que nos principes sont réalisables puisqu'il y a contradiction entre nos principes et nos pratiques. Mais elle dit, elle, au contraire, non, en fait, les gens sont tout à fait conscients de ces problèmes, et ça crée donc des effets de tension. C'est donc quelque chose qui est travaillé à l'intérieur des mouvements, et l'idée de tension évoque aussi le fait qu'on tend vers l'idéal, où on tend vers la réalisation des principes, et qu'on sait que les principes, c'est pas parce qu'on les exprime qu'ils se réalisent nécessairement. Et donc, les féministes radicales, les anarchistes, et les autonomes, j'imagine, en Allemagne, si vous lisez un peu leur fanzine, ou leurs propos, ou leur auto-réflexion, elles sont souvent traversées de ce type de débat, parce que justement, il y a tension dans ces mouvements, ils en prennent actes, et ils essayent de réduire les effets problématiques ou les écarts entre leurs principes et leurs modes d'action. Et on peut évidemment, d'un point de vue tout à fait fataliste, mais probablement réaliste, penser qu'ils n'y arriveront jamais, en fait, à arriver à une parfaite correspondance entre les principes et leurs actions ou leurs modes d'organisation. À la différence, évidemment, d'un point de vue politique, avec d'autres organisations qui ont aussi des beaux principes. Je pense, par exemple, à, je ne sais pas si vous connaissez, mais la République française, par exemple, les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, qui sont des principes que des anarchistes, par exemple, pourraient vouloir se réapproprier. Regarder le fonctionnement, par exemple, de la République française, même sous gouvernement socialiste, c'est quelque chose de possible, et dire, ben là, évidemment, il y a des contradictions tout à fait patentes, ou des tensions, selon comment on le voit. Et tout ça, ça se travaille dans la pratique. Et l'avantage, dirais peut-être, des anarchistes, c'est que, oui, dans nos réseaux anarchistes, il y a tension parce qu'il y a des prises de pouvoir informelles. Et donc, il y a des individus qui ont plus d'influence, qui ce surplus d'influence peut être influencé par des identités de genre, par exemple, des identités socio-économiques, des expériences militantes, on pourrait dire de façon un peu ironique, des médailles, c'est-à-dire qu'on a participé à telles grandes actions spectaculaires. Même la criminalisation, des fois, participe à la glorification de certains individus, ce qui est un peu paradoxal. Mais, diront-ils, et elles, au moins, dans nos réseaux, contrairement, par exemple, à un régime comme la République française qui se prétend incarner les principes de liberté, d'égalité et de fraternité, au moins, nous n'avons pas un mode d'organisation qui permet, en fait, formellement, d'avoir du pouvoir sur les autres. Et alors que dans la République française, par exemple, il y a le pouvoir formel, un président de la République, mais il y a aussi le pouvoir informel. Et le pouvoir informel et le pouvoir formel se combinent d'autant plus fortement que le pouvoir formel permet de s'asseoir sur des positions d'autorité formelles. C'est vrai dans les syndicats aussi, c'est vrai à l'université peut-être, dans d'autres lieux de pouvoir. Et donc, ce qu'il reste donc ce qu'il reste dans ces réseaux militants radicaux, c'est les pouvoirs et les jeux d'influence informels qui sont réels. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas réels. Ça peut même poser des problèmes de fait qu'ils ne soient pas formalisés, justement. On ne peut pas, par exemple, voter contre quelqu'un puisqu'il n'y a pas d'élection. Les féministes radicales en ont discuté longuement dans les années 70. Mais donc, voilà. Le Black Bloc, c'est un mode d'action tactique, c'est un moment dans une manifestation, et donc ce n'est pas une stratégie, et ce n'est pas une solution stratégique. Et ce n'est pas le Black Bloc qui donne la solution au renversement du capitalisme, de l'État, des transformations fondamentales, etc. C'est pas ça. Et la solution, dans l'action sociale des acteurs et des actrices qui participent au Black Bloc, elle n'est pas nécessairement dans cet événement Black Bloc qui va survenir une, deux, trois fois dans leur vie, mais elle est probablement plutôt à chercher du côté, en termes biographiques, de ce que ces personnes-là font au quotidien. Et plusieurs d'entre eux et elles, en fait, sont travailleurs sociaux, travailleurs de rue, dans des groupes féministes en violence, qui luttent contre la violence contre les femmes, dans un groupe écologiste de leur quartier, etc., etc. C'est là que ces gens-là s'impliquent généralement. En tout cas, en nombre significatif. Et par ailleurs, dans cet engagement-là, ces personnes, ce qu'elles semblent dire, c'est qu'elles sentent justement un inconfort, parce que c'est la réalité quotidienne de leur engagement et de leur salariat, en fait, mais qu'il n'est pas évident que ça apporte une réponse stratégique à comment on va transformer le système en profondeur. Et là, tout à coup, il y a cette occasion qui est une grande manifestation contre un sommet. Il y a pour elle le moyen d'exprimer, disons, de façon plus spectaculaire une critique radicale, et elle saisit ce moment pour vivre ce moment. Et c'est comme un cri, en fait. Ça fait un peu primal, mais et elle ne considère pas que ce moment transforme le système, mais c'est une occasion qu'elle saisisse.
Donc c'était Francis Dupuy-Déry, professeur de sciences politiques à l'UQAM, qui nous parlait des Black Blocs lors d'une intervention qui a eu lieu à Paris le 27 mai. On a terminé, on laisse la place sans plus attendre à la causerie, qu'on remercie pour les 5 minutes de...
Oui, merci.
On sera plus discipliné les fois d'après.
Allez, salut, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, ouais.
Prima di morir sul fango della via, imiteremo Brescia e Ravasciol. Chi stende a te la mano, borghesia, è un uomo indegno di guardare sol. Le macchine stridenti dilaniano i pezzetti.